Alors, il y a quelque temps, vous le savez, nous avons eu l'occasion de commencer une nouvelle série de messages et avec les anciens, on avait réfléchi sur l'importance de la marche chrétienne. L'attachement à Dieu nous permet de comprendre qui nous sommes et notre besoin d'une relation vivante et vraie avec le Créateur de toutes choses. Et cette relation a été rendue possible par Jésus-Christ, et en Christ, nous sommes invités à marcher en nouveauté de vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'avons plus l'obligation de suivre nos habitudes. Nous pouvons réagir autrement. Et donc, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu pour être transformés et, j'oserais dire, pour voir clair, même quand les choses paraissent floues. Alors, j'aimerais commencer ce matin avec une illustration. Ceux qui ont déjà fait des séjours de jeunesse, que ce soit dans les activités des flambeaux, dans des week-ends, dans des séjours d'été, savent qu'il y a toujours un moment festif, un grand jeu qui est organisé, un jeu de piste ou une chasse au trésor. Moment qui est toujours attendu. Quand j'ai fait de l'animation, quand j'étais même jeune, bon, ça remonte à longtemps, hein, je vous dirai pas quand, j'appréciais énormément de participer à ces moments parce que de tels jeux nécessitent de belles qualités. Il faut pouvoir les préparer, il faut pouvoir répondre aux énigmes qui vous sont posées, il faut pouvoir faire des puzzles, enfin, je suis toujours émerveillé par la créativité de ceux qui organisent de tels jeux. Ça demande de la préparation, de l'organisation, de la coordination. Et puis, il faut mettre les indices au bon endroit. Et après, pour ceux qui doivent les chercher, il faut les trouver. Et parfois, il nous manque un indice, on a du mal à le trouver, et là, ça se complique. Et donc, il y a pour ceux qui préparent un jeu de piste un véritable travail d'éclaireur pour aller repérer le terrain juste avant, essayer de voir où il est possible de mettre des indices qui soient suffisamment visibles, mais pas trop quand même, histoire de pimenter un petit peu le jeu. Ces éclaireurs, on en a besoin parce qu'ils viennent apporter quelque chose pour la suite. Ils viennent donner des directions pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer dans le texte de ce matin. Josué va envoyer des éclaireurs à Jéricho pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment organiser la suite de la conquête. Alors juste quelques mots de contexte avant de partager la lecture du chapitre 2 du livre de Josué. Une question qu'il faut toujours se poser quand on lit un texte biblique, c'est où nous trouvons-nous quand on est au début de ce livre et quand on est à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Quel est le contexte? Qu'est-ce que l'on a pu vivre? Qu'est-ce que les personnes ont pu vivre avec Dieu dans leur cheminement? Alors, ça fait bientôt 40 ans que le peuple est sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse et il a dû errer dans le désert parce qu'il n'avait pas respecté les conditions posées par Dieu. Tous, quasiment, qui étaient nés, qui avaient vécu en Égypte, sont morts. Il n'en reste plus beaucoup. Il reste Josué, il reste Caleb, même Moïse, et le peuple, la nouvelle génération, va se préparer à entrer dans le pays. Josué est un homme un peu particulier puisque il a fait partie de l'un des 12 éclaireurs qui, la première fois, était allé visiter l'ensemble du pays pendant 40 jours. Cet épisode, vous pourrez le lire chez vous, il est rappelé dans le livre des Nombres, chapitre 13. Et Josué, avec Caleb, était le seul à avoir fait le pari de la confiance, de dire « Oui, on peut rentrer dans ce pays, oui, c'est Dieu qui nous le donne. » Les 10 autres ont dit « Oh là là, non, on va pas y aller, c'est terrible, etc. » Enfin, c'est pas dit tout à fait comme ça, ça c'est moi qui contextualise. Mais vous pourrez retrouver effectivement les propos des hommes des 10 autres tribus. Malheureusement, ces 10 autres ont influencé le peuple en le décourageant. Et donc, du coup, Dieu les a punis. Un jour, qui avait servi à visiter le pays, à prendre des renseignements, a donné lieu à un an dans le désert. 40 jours, 40 ans. Mais pendant tout ce temps, Josué est resté présent aux côtés de Moïse pour devenir progressivement son assistant avant d'être le successeur. Josué a donc reçu les dernières directives de Moïse. Il se prépare à conduire le peuple dans cette étape décisive de la conquête du pays. Et petit à petit, Josué s'est vu confier des missions par Moïse et par Dieu évidemment pour pouvoir aller plus loin. Il va devenir un chef militaire très compétent et avant l'entrée dans le pays, il y a quelques territoires à l'est du Jourdain qui ont déjà été conquis, qui ont été confiés à la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Mais en donnant ces terres, Moïse avait insisté « Vous n'abandonnerez pas vos frères pour la conquête du pays. » Voilà où nous en sommes dans les préparatifs avant de rentrer dans le pays, de traverser le Jourdain. Une partie est déjà conquise à l'est du Jourdain. Il reste encore beaucoup à faire. Je vous invite donc à suivre avec moi Josué chapitre 2, les versets 1 à 24, et ils seront affichés derrière moi. Josué, fils de Noun, partit secrètement de Sittim, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, explorez le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir ces hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, puis elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur les toits et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Et elle leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et de tous les habitants du pays qui tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit s'est abattu devant nous. Devant vous, pardon. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre par une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là. Pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et rassemble avec toi, dans la maison
ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de la maison pour aller au dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un d'eux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux, ils s'en allèrent, puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent, arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne, passèrent le Jourdain, ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Des éclaireurs pour un état des lieux. Josué a donc mandaté 2 éclaireurs pour aller explorer les alentours et la ville de Jéricho et recueillir des informations sur ce qui s'y passe. Les éclaireurs sont donc invités à faire une sorte d'état des lieux de la situation. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même manière que l'exploration dont je vous ai parlé en nombre 13 que Moïse avait envoyé s'est produite. Moïse avait envoyé à l'époque 12 éclaireurs qui étaient restés 40 jours. Ici, il n'y en a que 2 pour une mission de courte durée. Regardez la ville. Ils arrivent à y entrer, à y passer presque inaperçus. Ils sont accueillis par Rahab, une prostituée qui les héberge pour la nuit. Le texte ne donne pas forcément d'informations précises sur la manière dont le roi de Jéricho est au courant, si ce n'est qu'on le lui a dit, mais le roi le sait. Il y a la présence des ennemis dans la cité et il va faire son enquête. Il a même déjà en tête que il y a cette mission de conquête et qu'il faut les bloquer dans de tels projets. Les soldats du roi vont alors chez Rahab et ils savent qu'elle a accueilli les espions. Ils vont donc l'interroger. Mais celle-ci choisit de les cacher, de les protéger, de veiller sur eux. Elle donne même de fausses informations aux soldats du roi. Si elle reconnaît qu'elle les a accueillis chez elle, elle ne les dénonce pas et elle choisit de les protéger. Mais pourquoi une telle attitude? Pourquoi est-ce que Rahab prend de tels risques? Dans cette première partie du récit, dans les 7 premiers versets, nous ne voyons pas ses motivations profondes. Nous découvrons simplement qu'elle a choisi de protéger les éclaireurs du peuple de Dieu. Devant les soldats du roi, elle reconnaît qu'elle les a accueillis, mais elle donne une fausse information en disant qu'ils l'ont quitté. De telles indications montrent déjà que Jéricho n'est pas prête à subir les assauts du peuple de Dieu. Ils ont la trouille, les pétoches, comme on dirait aujourd'hui. Et il y a de quoi? Avec tout ce qui s'est passé, avec la manière dont le peuple a avancé dans le désert, avec les miracles d'Égypte, il y a de quoi avoir peur. Et alors qu'ils passent ce temps dans la maison de Rahab, alors qu'ils l'écoutent, ils vont pouvoir faire un rapport précis. Le peuple est déjà prêt à la conquête. Souvenez-vous, chapitre 1, verset 11, Josué avait annoncé la traversée du Jourdain par tout le peuple et le début de la conquête. Les éclaireurs vont faire leur rapport, ils vont passer ce temps à Jéricho, ils vont se protéger, ils vont revenir après s'être cachés dans les montagnes et avec ce qui s'est passé dans la maison de Rahab, ils ont là toutes les informations nécessaires. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'au-delà de l'hospitalité offerte par Rahab, les éclaireurs bénéficient d'une grâce spéciale. Il est évident, si on s'en doute un petit peu, que Dieu agit en coulisses, qu'il a préparé le terrain, qu'il va les aider dans cette situation délicate. Le Dieu souverain Et derrière toute chose, il prépare les choses, il orchestre les événements pour que tout se produise selon ce qu'il a prévu. Et donc, les éclaireurs vont pouvoir avancer en pleine confiance dans ce Dieu merveilleux qui se révèle. Une protection inattendue qui est un véritable secours. Alors, si je reviens à mon illustration du jeu de piste, quand vous savez que tout va bien se passer, c'est génial, n'est-ce pas? En tout cas, on est ravis de pouvoir se réjouir une fois qu'on a trouvé la solution, qu'on n'a perdu personne et que tout le monde a résolu les différents problèmes. Grâce imméritée pour les éclaireurs. Deuxième point que je voudrais souligner, là c'est tout le centre du texte, les versets 8 à 21 qui nous en parlent. Les éclaireurs ne méritaient pas d'être accueillis chez cette femme, ils ne méritaient pas d'être protégés, et pourtant, elle va le faire. Et Rahab va même expliquer ce qui se passe, et en plus elle va leur dire, mais attendez, votre mission, elle va avoir du succès, nous, on a peur, on sait que Dieu vous conduit, et on ne pourra pas tenir face à cela. Les éclaireurs sont donc en mesure de comprendre que Dieu tient ses promesses. Lui qui leur a dit dans le passé, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, j'habiterai au milieu de vous. » Lui qui a fait cette promesse à Abraham d'avoir une descendance, de nombreux biens et un pays, les choses vont s'accomplir. Tout est prêt pour que cela se passe ainsi. La promesse est sur le point de se réaliser. Et avec cette visite dans la maison de Rahab, les éclaireurs comprennent cela. Mais que dit-elle concrètement? Elle évoque le périple du peuple de Dieu. Elle souligne qu'elle a compris que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage d'Égypte par la main de Dieu. Que les Égyptiens ont été sévèrement punis pour leur obstination à vouloir garder le peuple de Dieu en esclavage. Le passage de la mer des roseaux à pied sec, la déroute des armées de Pharaon qui poursuivaient le peuple, la conquête des royaumes situés à l'est du Jourdain, la chute des ennemis du peuple de Dieu. Avec ce condensé de 40 ans d'histoire, Rahab a donc compris, et elle le dit, c'est Dieu qui vous conduit. C'est Dieu qui conduit son peuple. Pas possible de résister. Et elle leur explique que tout Jéricho a compris cela et qu'ils en ont peur. Jéricho est sur le point de tomber face au peuple de Dieu. Si Josué, tout le peuple se met en route, ils sont assurés de la victoire, de la conquête du pays. Rahab leur donne la vie sauve. Et il est intéressant de voir que la maison de Rahab se situe juste au niveau de la muraille, qu'elle va profiter de cet avantage pour leur permettre de s'échapper sans être vue. Elle qui a fait grâce va demander à tout le peuple de Dieu au moment de la conquête de lui faire grâce. Et c'est intéressant cette illustration du cordon rouge qu'elle doit mettre devant sa fenêtre pour assurer la protection. Notez que les éclaireurs ont dit « Tu le mettras avant que nous arrivions » et qu'elle le fait tout de suite. Elle n'attend pas. D'emblée, en faisant cela, Rahab démontre sa confiance en Dieu, sa confiance dans les promesses qui sont faites. Elle ne doute pas qu'elle va être secourue le moment venu. Non seulement elle va être sauvée, mais l'histoire est belle et elle continue. Parce qu'elle va être intégrée au peuple de Dieu. Et elle va même trouver une place particulière en devenant l'époux d'un des membres de la tribu de Juda et une des ancêtres du roi David, puis de Jésus lui-même. On la retrouve dans les généalogies. L'ennemi du peuple de Dieu est devenu l'allié. Pourquoi? Parce qu'elle a compris les desseins de Dieu, elle a décidé de faire grâce aux éclaireurs, de les sauver. Et donc, la prostituée, pardonnée, accueillie comme une personne bienveillante, comme celle qui a su apporter la protection. Sacré changement, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et son engagement peut être vraiment un encouragement pour nous. Alors venons-en maintenant au troisième aspect du texte, le rapport des éclaireurs, les trois derniers versets. Ils suivent les conseils de Rahab, ils se cachent dans les montagnes, en attendant de pouvoir échapper aux soldats du roi de Jéricho et de pouvoir retourner au campement du peuple. Après être restés 3 jours, ils font leur rapport à Josué, racontent les propos de Rahab, les observations qu'ils ont pu faire. Un rapport essentiel pour Josué. Pourquoi ? Pour ceux qui étaient là dimanche passé, vous vous souvenez, il était recommandé à Josué de prendre courage. Avec de telles nouvelles, c'est même une réponse à cette prière. Quand Dieu lui dit « Fortifie-toi, prends courage, appuie-toi sur moi », eh bien, la prière est en train de s'accomplir. Le dialogue entre Josué et Dieu, quand celui-ci a pris la suite de Moïse, montrait que Josué avait besoin d'être soutenu dans sa tâche. Et donc, les éclaireurs vont permettre à Josué de voir clair alors que les choses paraissent floues. C'est quand même phénoménal d'imaginer tout le peuple de Dieu avec femmes, enfants, troupeaux, etc., qui va partir à la conquête d'un pays et qui va pouvoir entrer en possession. Donc on voit bien que Dieu donne les moyens à son serviteur de pouvoir faire face à ses doutes, face à ses craintes, devant toute la charge qui lui est confiée. La conquête du pays est un mandat difficile. Et Josué va devoir conduire un peuple qui ne brille pas par son attachement à Dieu, par son courage. Je n'ai pas dit que c'était un peuple de Français, mais c'est quand même un peuple de râleurs. Ne l'oublions pas. De personnes qui ont justement l'habitude de se plaindre. Hein ? On est d'accord. Josué n'est pas à l'abri de certaines erreurs, certaines difficultés, certaines épreuves. Il va devoir y faire face. Et le rapport des éclaireurs vient comme une réponse à ses hésitations possibles. Non seulement il est rassuré par Dieu, mais il est rassuré aussi par ce qui se joue autour de lui. Dieu qui a appelé son serviteur est digne de confiance. Il va lui donner les moyens de se préparer, de se mettre en marche et d'avancer à sa suite. Et donc, l'exemple de ce que vit Josué dans ce passage est important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il démontre le soin que Dieu a pour préparer chacun à la mission qu'il va lui confier. Après lui avoir demandé de se fortifier, Dieu donne à Josué, par l'intermédiaire de peu de personnes qui sont allées chercher des informations, l'assurance de la réussite de la mission. C'est comme quand vous allez à la chasse au trésor, trésor garanti. Vous allez le trouver. Super. Ça nous rassure et on est content de le faire. Et ce texte m'a beaucoup encouragé pour différentes raisons. Pourquoi ? Parce qu'il démontre à quel point Dieu est souverain, à quel point Dieu agit en coulisses, à quel point il dirige tout. Il nous aide à traverser des moments de découragement et de doute. L'invitation de Dieu, fortifie-toi et prends courage, trouve son accomplissement ici. Et si Dieu nous invite à avoir la foi, à croire sans voir, parfois, on a besoin de petits indices qui nous aident à voir clair quand les choses semblent floues. Et vous avez parfois des petits clins d'œil de Dieu qui viennent nous rassurer, une parole d'encouragement, une parole de soutien, dans les moments difficiles, dans les moments de doute, une tape sur l'épaule, ce genre de choses qui sont là, qui nous font du bien. Alors, que retenir ? D'un point de vue pratique, le courage, quand nous sommes devant les difficultés, peut souvent nous manquer. Mais Dieu nous invite à garder la foi. Il est ce soutien, ce rocher protecteur. Nous qui sommes appelés à croire sans voir, comptons vraiment sur son aide. Et quand tout semble flou, soyons sûrs qu'il va nous aider à voir clair. Malheureusement, c'est pas toujours tout de suite. Et c'est bien ça ce qui nous dérange. Parce que même si Dieu nous donne l'occasion de voir clair quand les choses sont floues, c'est pas toujours au moment où on le souhaiterait, où on espérerait en avoir besoin. Mais ça viendra. Ça viendra. On peut utiliser cette image quand vous êtes dans un tunnel, on peut se dire qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel, mais parfois le tunnel est bien long. Demander conseil, se rappeler que Dieu dirige toutes choses, est un réel appui dans les difficultés. La semaine passée, Josué nous a rappelé l'importance de reprendre courage. Cette semaine, gardons dans nos cœurs l'idée que Dieu est un réel soutien dans les moments de doute. Dieu n'est pas un Dieu silencieux, lointain, inaccessible. Et même si nos projets manquent parfois de clarté, si on a l'impression d'être à une croisée des chemins, on se dit « j'ai cette direction, j'ai cette direction, j'ai cette direction, mais Seigneur, où veux-tu que j'aille ?» C'est pas facile, hein ? Demandons simplement à Dieu de voir clair sur les différentes options. Et surtout de voir clair sur la manière dont elles vont s'enchaîner. Peut-être qu'il faut qu'on reste encore un petit peu dans l'attente à la croisée des chemins. Peut-être qu'on va aller dans une direction, on va faire quelques pas, on fera marche arrière, on repartira dans l'autre direction. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste attendre et prier et ne rien faire. Ça veut dire aussi qu'il est possible parfois de s'engager dans une direction et de voir comment Dieu va corriger le tir. Vous savez, quand vous avez le choix entre deux options, et quand vous savez que vous avez le choix entre le bon choix d'un côté, le bon choix de l'autre, lequel il faut choisir ? Le bon choix, évidemment. Oui, mais lequel des deux ? Pas toujours simple. Eh bien, à un moment donné, quand on va s'engager dans une direction, on peut avoir l'assurance que Dieu va continuer à conduire toute chose. Reprenons l'image de l'archer qui lance une flèche au tir à l'arc. Si un archer veut viser juste, il doit se préparer, il doit prendre une position, il doit regarder, il doit tenir compte de la vitesse du vent, si toutefois il peut, etc. Mais il sait qu'à un moment donné, au moment où il lâche la flèche, il ne peut plus rien faire. Il est appelé à lâcher prise et quelque part à faire confiance en ce qu'il a pu percevoir pour que la flèche aille au centre de la cible. Bien quand nous nous engageons dans une direction, aussi curieux que cela puisse être, il nous faut parfois faire comme l'archer, lâcher prise et faire confiance à Dieu. Mais ça, chers amis, cela va être possible que si nous restons connectés jour après jour avec Dieu. C'est possible parce que nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Après la croix, il y a la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. Et toute la suite de l'histoire. Il y a une dizaine de jours, j'étais à l'Institut biblique de Genève pour partager un cours sur les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Et vous savez quoi ? J'ai eu un encouragement qui ne m'attendait pas. Déjà, à chaque fois que je vais là-bas, quand je vois l'intérêt des étudiants pour Dieu, leur envie de servir, c'est toujours quelque chose qui me renouvelle et qui me fait du bien. Mais nous nous sommes intéressés aux témoignages des témoins qui nous ont précédés et qui ont pu nous aider à découvrir ce Dieu trinitaire qui se révèle. La Trinité, la Bible n'en parle pas, ou le mot n'est pas employé. Mais vous avez un ensemble de textes qui nous aident à comprendre que Dieu est un seul Dieu, mais qu'il est en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Et c'est pas simple à comprendre. C'est encore moins simple à expliquer. Trois personnes, un seul Dieu. Et quand nous avons un déséquilibre dans notre compréhension de l'action de ces trois personnes, c'est le début des doutes, des controverses, des hérésies. Dieu le Père orchestre tout en coulisses. Dieu le Fils est venu accomplir le plan du salut. Dieu l'Esprit nous aide à le comprendre et le croire. Et aujourd'hui, celui qui vient au secours de notre foi, quand nous avons du mal à croire sans voir, c'est justement l'Esprit Saint qui éclaire la Bible et qui fait que cette Bible est parole de Dieu pour toi comme pour moi. Donc voilà comment je suis invité à marcher par la foi, à me renouveler quotidiennement, jour après jour, à me laisser instruire par cette parole qui m'aide à avancer. dans les moments de doute, dans les croisées des chemins. Vous avez des textes merveilleux, ne serait-ce que dans les premiers psaumes, qui nous aident à mettre toute notre confiance en Dieu seul. Je suis réconcilié avec Dieu le Père par l'œuvre du Fils. Le Saint-Esprit le prouve aujourd'hui et je peux avancer, me mettre en marche dans la vie avec sa conduite et sous sa direction. Voilà ce qui est merveilleux dans ce message qui nous aide à prendre conscience de l'importance de compter sur notre Dieu. Alors, pour conclure, gardons dans nos cœurs que ce récit des préparatifs de la conquête nous aide à découvrir que Josué avait besoin de prendre courage, qu'il a envoyé des éclaireurs, peut-être parce que sa vision était floue. Or, ces espions éclaireurs ont apporté des réponses capitales sur la manière dont Dieu prépare le terrain pour la conquête du pays. Ceux qui ont été envoyés en mission ont bénéficié de cette grâce particulière que nous avons rappelée, qui a été aussi évoquée au travers des chants et dans les propos de Michel tout à l'heure. La vie a été sauvée par Rahab. Ils vont apporter le salut à Rahab en retour. Elle sera elle-même sauvée. Avec ce rapport, Josué a vu s'accomplir la prière par cette réponse concrète de Dieu qui atteste que tout est prêt pour passer à l'action. Les chapitres suivants, revenez les prochaines semaines, vous connaîtrez la suite de l'histoire, viendront confirmer la suite de cette préparation et la manière dont le peuple va se mettre en marche pour entrer dans le projet de Dieu. Alors, chers amis, pour nous aujourd'hui, je vous encourage à garder comme moi cette assurance que Dieu est digne de confiance. Si nous nous mettons en route, si nous cherchons à suivre ses directives, il va nous conduire dans la bonne direction, tôt ou tard. Et parfois, on a l'impression d'être parti dans une mauvaise direction. On était convaincu qu'on était dans la bonne, qu'on était au bon endroit. Oui, on l'aura été pour un temps, mais peut-être que Dieu va amener les choses autrement pour qu'on soit ailleurs. Alors, soyons à l'écoute. Restons accrochés, nous qui sommes appelés à croire sans voir. Apprenons à demander à Dieu des éclairages. Je vous encourage à vous accrocher à cette promesse. Ce n'est pas rare qu'on soit dans des transitions, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Et quelque part, même moi actuellement, je me pose des questions à ce niveau-là. Mais j'ai besoin du secours et du soutien de ce Dieu qui dirige toutes choses pour conduire l'histoire à sa bonne fin, comme disait Jean Calvin. Parole qui m'a toujours émerveillé. Alors, si nous sommes invités à croire sans voir, demandons à Dieu de nous éclairer quand les choses paraissent floues. Nous avons besoin de son secours. Amen.